et on débute avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. S'agit-il vraiment d'un retournement spectaculaire ? Donald Trump a décidé de mettre fin aux séparations des familles de migrants arrivées illégalement aux États-Unis, ce qui avait provoqué une vague d'indignation mondiale. Mais l'incertitude demeure sur les 2300 enfants et jeunes migrants qui ont été séparés de leurs parents depuis début mai. Après leur arrestation à la frontière avec le Mexique, nous serons au Texas dans un instant.
Et puis, la Hongrie décide, elle, d'un tour de vis supplémentaire contre les migrants et les ONG qui les aident. Criminalisation de leurs actions, vous l'entendrez.
À la une en France, la protection de l'environnement inscrite dans l'article 1er de la Constitution. Peut-être de nouvelles privatisations décidées par l'exécutif et le bras de fer budgétaire qui continue entre le gouvernement, les régions et les départements. Le groupe General Electric en perte de vitesse, il est sorti de l'indice Dow Jones aux États-Unis. Les fleurons du numérique, de la santé et de la consommation prennent les premières places à Wall Street. C'est ce que nous dira Jean-Marc Chardon dans son billet économique à la fin de ce journal.
Et puis dans une quinzaine de minutes, Catherine, la question du jour. Donald Trump veut son armée de l'espace. Est-ce crédible ou risible? Eh bien, on posera la question à Xavier Pascaud, directeur de la Fondation pour la recherche stratégique.
Après plusieurs jours de polémique, d'indignation du camp démocrate au camp républicain, de réprobation dans le monde jusqu'au pape François, qui a déclaré hier que les problèmes migratoires ne seraient pas résolus par le populisme, Donald Trump a finalement décidé hier de mettre un terme à sa politique de séparation des enfants de leurs parents entrés illégalement aux États-Unis. À la frontière avec le Mexique, des enfants étaient séparés de leurs parents donc pour être emmenés dans d'autres centres de rétention. Les images de ces mineurs, parfois très jeunes en pleurs derrière des grilles, ont bouleversé aux États-Unis et bien au-delà. Hier soir donc, le président américain a signé un décret visant à interdire cette pratique, même si les conditions d'application de ce décret restent encore très floues. Léger soulagement chez les familles de migrants qui se trouvent actuellement au sud du Texas. Le reportage de Grégory Phillips à McAllen, dans la vallée du Rio Grande.
La plupart ont traversé le fleuve Rio Grande il y a 24 ou 48 heures et se retrouvent désormais dans cette petite église de McAllen où on leur distribue vêtements, nourriture et conseils juridiques. Il y a là une cinquantaine de migrants venus du Mexique, du Honduras ou du Salvador. Les hommes regardent le football à la télévision tandis que les enfants s'amusent avec des jouets d'occasion. Maria est l'une des bénévoles du centre. Elle se réjouit de cette décision de mettre un terme à la séparation des familles de migrants. C'est vraiment une bonne décision de ne plus du tout séparer ces familles. Vous savez, quand vous entendez les pleurs des enfants la nuit, qui dorment dans un endroit étrange et qui pour eux ressemble à une prison, eh bien ce n'est pas une chose juste. Elle s'appelle Martha. Elle a pendant 3 semaines voyagé du Guatemala jusqu'ici avec ses 3 enfants âgés de 4, 7 et 8 ans. Elle raconte qu'il y a 8 jours, quand elle a réussi à passer la frontière, des border patrol l'ont arrêtée et ont placé les 2 plus grands dans 2 centres de rétention différents. Elle est restée avec la petite de 4 ans, mais la famille a été séparée pendant une semaine entière. C'était tellement triste, raconte Martha, l'air encore épuisé. Entre une prière et le repas du soir, ces familles préparent la suite. Et Hermie, une autre bénévole, espère que la signature hier du décret présidentiel permettra aux parents qui sont encore séparés de leurs enfants de les retrouver rapidement. On espère et on prie pour que ça arrive, parce que ces familles divisées, c'est dur pour nous à observer, mais je ne peux même pas imaginer ce que ça représente pour elles. On espère que c'est terminé, mais on verra bien. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Martha, venue du Guatemala avec ses 3 jeunes enfants, porte désormais un bracelet électronique à la cheville et compte aller plus au nord, jusqu'en Virginie, avec eux, pour tenter d'obtenir là-bas une autorisation de séjour sur le territoire américain.
Grégory Phillips au sud du Texas pour France Culture. Ils sont moins de 400 en Hongrie, 400 demandeurs d'asile, mais c'est au nom de la lutte contre l'invasion migratoire que le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, a fait promulguer plusieurs lois contre les migrants et ceux qui les accompagnent. Les autorités peuvent désormais rejeter une demande d'asile sans l'examiner. Quant aux associations, aux ONG qui étaient chargées par le gouvernement d'étudier les candidatures à l'exil, à l'asile, ces ONG pourraient désormais être punies pour ce travail, 1 an de prison pour assister des réfugiés dont la vie n'est pas en danger, un nouvel arsenal législatif qui cache une modification de la Constitution. Les précisions à Budapest de Florence Labruyère.
Des ONG sous pression, criminalisées par le gouvernement de Viktor Orban qui les accuse d'encourager la migration illégale. Le thème n'est pas nouveau. Le Premier ministre hongrois ne fait que poursuivre une campagne de communication savamment orchestrée. Mais cette offensive contre le secteur associatif n'est peut-être qu'un écran de fumée. Il servirait à masquer la réforme de la justice que le Premier ministre hongrois s'apprête à mener. Hier, il a fait voter par sa majorité une modification de la Constitution. Elle annonce la création d'une nouvelle institution judiciaire, la Haute Cour administrative. Ce nouveau tribunal va récupérer une bonne partie des compétences de la Cour suprême de Hongrie. Il jugera les affaires liées aux libertés civiles, aux droits électoraux, ainsi que les affaires de corruption dans les marchés publics et les plaintes contre la police. Pourquoi Viktor Orbán cherche-t-il à déshabiller la Cour suprême et à lui retirer une partie de son pouvoir ? C'est parce que celle-ci a osé faire preuve d'indépendance et rendre des décisions qui ne plaisaient pas au gouvernement. Le nouveau tribunal sera composé de fonctionnaires venus de l'administration et son président sera élu par le parti de Viktor Orbán. C'est la création d'une justice parallèle aux ordres de l'exécutif, dénoncent des associations de défense des droits de l'homme. C'est en tout cas un sérieux coup porté à l'indépendance du pouvoir judiciaire.
Le pouvoir judiciaire inféodé aux politiques, c'est contre cela que des milliers de personnes ont manifesté hier à Bucarest et dans plusieurs grandes villes de Roumanie pour protester contre un assouplissement du code pénal qui risque, selon eux, de freiner la lutte anticorruption. Le Parlement roumain, dominé par la gauche, a adopté en début de semaine des amendements au code de procédure pénale destinés, selon l'opposition, à protéger les délinquants. La Grèce attend le feu vert aujourd'hui des grands argentiers de la zone euro pour tourner définitivement la page de 8 ans de mise sous tutelle en échange de prêts. C'est le choix de la rédaction à suivre dans le journal de 7h30.
Il est 7h07, Catherine Dutu, c'est la suite du journal avec les matins de France Culture qui poursuivent sur de nouvelles privatisations auxquelles songerait le gouvernement.
Après celle d'Aéroports de Paris, de la Française des Jeux et d'Engie, les prochaines cessions de participation de l'État pourraient concerner notamment Orange, Air France KLM ou encore le secteur automobile avec Peugeot et Renault, selon le journal Les Échos. Ces cessions éventuelles, partielle ou totale, servirait à éponger notamment la dette de 35 milliards de la SNCF entre 2020 et 2022. Sur les rails encore, la CGT appellera régulièrement à la grève en juillet et en août et déconseille d'ores et déjà aux voyageurs de prendre un train les 6 et 7 juillet prochains. Déclaration de Laurent Brun, le leader de la CGT cheminot hier soir. Ces appels seront lancés en fonction des avancées obtenues sur les revendications des cheminots. La protection de l'environnement sera bientôt inscrite dans l'article 1er de la Constitution. C'est ce qu'a annoncé hier Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique, en marge d'un déplacement avec Emmanuel Macron en Bretagne. Décision saluée par plusieurs ONG environnementales, à l'instar de WWF, ainsi que par la branche écologiste du groupe majoritaire à l'Assemblée nationale. Écoutez la réaction de Mathieu Orphelin, député LAREM du Maine-et-Loire.
C'est vraiment une excellente nouvelle. C'était aussi la volonté des députés de la République En Marche de mettre ce respect de l'environnement dès l'article 1 de la Constitution. Sur beaucoup de lois, on était limité, comme on l'a été par exemple sur la loi Hulot de fin des hydrocarbures en France, où on a été le plus loin possible au regard de notre constitution actuelle, mais on aurait voulu accélérer encore plus la fin de l'exploitation et de l'exploration des hydrocarbures en France, mais on s'est heurté à l'analyse constitutionnelle qui faisait que dans la constitution, il y a la liberté d'entreprendre et qu'en face, on n'avait rien à mettre, aucune référence aux grands enjeux, notamment climatiques. Et donc, c'est des défis tellement importants que c'est très bien qu'ils soient dès l'article 1 de la constitution.
Mathieu Orphelin, député En Marche du Maine-et-Loire, au micro de Mathieu Desmoulins. Le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, a condamné hier des manœuvres politiciennes après que plusieurs régions ont fait savoir qu'elles refuseraient de signer un contrat avec l'État pour limiter la progression de leurs dépenses. Des régions au département, en passant par les villes, les 322 principales collectivités françaises vont devoir faire des économies 13 milliards d'euros d'ici à 2022. C'est en tout cas le but du contrat de maîtrise des dépenses publiques annoncé l'été dernier et que l'État veut leur faire signer. Ces collectivités ont jusqu'au 30 juin pour se décider. Mais hier, les présidents des conseils départementaux ont voté majoritairement contre ces pactes financiers lors de leur assemblée générale, Tiphaine Honoré.
Ce n'est pas un contrat, mais une mise sous tutelle. Voilà le sentiment que partage la majorité des présidents de département. 77% d'entre eux ont voté contre les pactes financiers voulus par l'État. Le président de leur assemblée, Dominique Bussereau, s'en explique.
Dans les dépenses d'un département, nous dépensons beaucoup pour le compte de l'État. Madame Nissen me demande plus d'ouverture des bibliothèques, Madame Buzyn nous demande plus de prise en compte des frais des EHPAD. Donc voilà, il faut que l'État comprenne bien qu'il ne peut pas toujours plus nous demander tout en bloquant un certain nombre de nos dépenses que nous faisons de manière obligatoire et de la plupart pour le compte de l'État.
Plafonner la hausse des dépenses à 1,2% contre 4% aujourd'hui semble intenable, y compris pour les régions. Seule la Bretagne a annoncé qu'elle signerait le contrat. Pour les autres élus comme Hervé Morin, président de l'association Régions de France, l'État devrait commencer par montrer l'exemple.
L'État nous dit qu'il faut être à moins de 1,2% d'augmentation des dépenses de fonctionnement. Mais qu'est-ce que vous faites, vous, quand vous êtes à 1,9% et que nous sommes naturellement à moins de 1,2%.
Le ton est différent du côté des villes. Contrairement aux régions et départements, elles n'ont pas à leur charge les aides sociales. La pilule est donc moins difficile à passer. Caroline Cailleux, présidente de la Fédération des villes de France, salue même un dialogue constructif avec le gouvernement.
Nous avons pu, au cas par cas, avoir un dialogue en effet et une négociation avec les préfets du département et les préfets de région. Donc moi j'ai considéré que c'était une avancée plutôt que d'avoir une baisse drastique comme nous l'avions eu sous M. Valls.
Les deux tiers des villes concernées devraient signer et donc assurer leur dotation d'État. Reste à savoir si le gouvernement lâchera du lest auprès des réfractaires. Il reste 10 jours pour se mettre d'accord.
Jean-Jacques Urvoas, ancien ministre de la Justice sous le quinquennat Hollande, vient d'être mis en examen par la commission d'instruction de la Cour de justice de la République. Il est accusé d'avoir fourni dans l'entre-deux-tours présidentiel l'an dernier des informations au député Les Républicains Thierry Solaire, organisateur de la primaire à droite, à propos des avancées d'une enquête judiciaire le concernant pour fraude fiscale. Les explications de Stéphane Robert.
À l'époque, François Hollande était encore à l'Élysée et Emmanuel Macron n'avait pas encore remporté l'élection présidentielle. Mais il en était le grand favori face à Marine Le Pen et les discussions avaient déjà commencé secrètement avec Édouard Philippe en vue de composer le futur gouvernement. Thierry Solaire, alors encore député, Les Républicains, était un ami proche du futur Premier ministre et il pouvait envisager d'être appelé dans le futur gouvernement. Il cherchait donc à savoir où en était l'enquête judiciaire le concernant. Une enquête pour une affaire pas vraiment bien importante puisqu'on savait déjà à l'époque qu'il s'agissait du non-règlement d'une partie de ses impôts sur le revenu, ainsi que d'une taxe foncière. Mais on connaît la règle pour un ministre, une mise en examen entraîne immanquablement une démission. Et donc Thierry Solaire avait sollicité celui qui était encore à l'époque ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, lequel avait récupéré une note de synthèse de ses services et l'avait transmise au député Solaire. Et cette note, les enquêteurs l'ont retrouvée dans le téléphone de Thierry Solaire, à l'occasion d'une perquisition en juin 2017. Le ministre avait signé au bas de cette note « Amitié, Jean-Jacques Urvoas ». Il est donc poursuivi pour violation présumée du secret de l'enquête.